y a une vie commune avec les musulmans qui constituent 50% de la population et 50% des chrétiens de toutes les églises orthodoxes, protestantes, catholiques, orientales, catholiques. Et il fait bon vivre à Nazareth. Bien sûr, il y a depuis une quinzaine d'années, il y a le mouvement islamique qui est un parti politique qui essaye d'avoir la mairie de Nazareth, d'avoir des personnes à la Knesset. Mais là, le vécu commun, je ne pense pas qu'il y a des difficultés concrètes entre musulmans et chrétiens. Il y a toute notre situation en tant qu'arabe dans l'État d'Israël. Ça, c'est certain qu'il y a là d'autres difficultés.
Comment comprendre l'hostilité de certains musulmans envers les chrétiens ici à Nazareth ?
Moi, je pense qu'il y a ce mouvement islamique, c'est-à-dire les gens qui ont un projet islamique mondial et qui essayent partout de relever, non pas le dialogue, mais cette réalité, qu'il y a des points sombres dans le dialogue avec les musulmans et les chrétiens. Et ici, à Nazareth, sont une minorité. Une minorité qui peut être 500 personnes et qui sont menées par des gens sur les histoires des élections et sur l'histoire de construction de la mosquée à côté de la basilique. Il y a une certaine volonté de montrer qu'il y a là un point sombre dans les relations, mais moi je ne pense pas que c'est la majorité ou c'est l'ambiance générale, au contraire.
Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le statut des habitants de Nazareth ? Est-ce qu'il est juste de les qualifier de réfugiés ?
Mais Nazareth est dans l'État d'Israël, on n'est pas des réfugiés, nous avons la nationalité israélienne depuis 1948. Et nous sommes israéliens, nous voulons rester israéliens, nous voulons construire avec le monde israélien l'État. Donc les réfugiés sont depuis 1948 qui habitent à l'intérieur du pays. Bien sûr, il y a les gens qui sont des déplacés depuis 1948. Autour de Nazareth, dans la Galilée, plusieurs villages ont été démolis par l'armée israélienne en 1948. Et les citoyens ont été obligés de quitter leur village. Et parmi eux, il y a des gens qui sont venus autour à d'autres villages et à Nazareth même. Le pape s'adresse à une population qui sait aujourd'hui qu'elle est israélienne, citoyenne de l'État d'Israël. On peut dire qu'elle n'a pas tous ses droits à l'intérieur de l'État, mais ce n'est pas le statut de réfugié comme quand il s'est adressé aux réfugiés de Haïda à côté de Bethléem.
Comment faites-vous pour œuvrer à une pédagogie de paix ici à Nazareth ?
À Nazareth, cette pédagogie qu'on essaye de montrer, c'est avant tout, c'est un peu la réalité de comment je vis ma foi chrétienne. C'est une ouverture à toutes les communautés. Et pas simplement une ouverture de connaissances, mais un vécu commun que vous essayez de créer. Cette appartenance au monde chrétien nous vient depuis 2000 ans. Et même s'il y a des divisions, et même s'il y a des réalités qui ont blessé cette unité, aujourd'hui nous essayons de vivre cette foi ensemble. Deuxièmement, la communauté arabe. La communauté arabe, nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes des arabes chrétiens. Nous sommes depuis des siècles et des siècles avec l'islam. Et on essaye de montrer que la langue, l'histoire, la culture, le passé, l'avenir, nous devons le vivre ensemble. Et d'être fiers de cette réalité, d'être arabe et d'être de la culture musulmane. La même chose pour notre citoyenneté israélienne. C'est-à-dire que je me montre en tant que citoyen israélien. C'est-à-dire que je suis arabe dans un État qui est majorité juif, mais qui peut me garantir le droit, la liberté, l'égalité. Bien sûr, tout cela, c'est à l'intérieur de l'État. Et de rassembler tout cela et de dire j'appartiens à tout ce monde, non pas simplement sur le plan verbal, mais concrètement.
Vous aviez déclaré il y a quelque temps que chaque parti, en pensant donc au conflit israélo-palestinien, que chaque parti doit mettre de côté sa souffrance et cesser de la revendiquer comme une identité propre. Et vous pensez justement que cet état d'esprit peut être une condition pour espérer une paix réelle ?
Bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a une souffrance, il faut le saisir, il faut y communier. Mais aujourd'hui, cette souffrance ne peut pas être une carte d'identité. Je communie à la souffrance, je communie à la réalité des blessures qui sont là, présentes dans les différents peuples. Mais si je continue tout le temps à demander d'être reconnu comme victime, je ne peux pas avancer. Et je ne peux pas tout le temps se sentir comme réfugié quelque part. Réfugié, c'est un statut qui doit changer, bien sûr, mais je ne peux pas devenir une identité. Sinon, le réfugié va dire toujours, l'autre n'a pas de place. C'est ma place. Il prend ma place. C'est pourquoi la souffrance et cette blessure peuvent être un cheminement de communion, de connaissance et de reconnaissance, de reconnaître l'autre, mais qui ne peut pas être une carte d'identité. D'où la réalité de que cette communion dans la souffrance peut aider vraiment à cette réalité d'un dialogue et d'une symphonie entre les peuples. Et je pense que le Saint-Père l'a très bien dit partout où il est passé. Et c'est cela, la visite du pape dans ce pays.
Quel rôle l'Église en général et le pape en particulier peuvent jouer en Terre Sainte?
Le Vatican a été tout le temps le lieu, et les différents papes étaient le lieu d'écoute de toute la souffrance de ce pays. Et malheureusement, quelquefois, on est loin de Rome et que la voie prophétique n'arrive pas jusqu'à là. Et je pense que c'est l'Église et le Saint-Père et peuvent avoir la voie prophétique. Prophétique pour rappeler que Jésus, c'est l'essentiel de toute notre vie, et qu'il faut le vivre, vivre l'Évangile, et en même temps rappeler cette réalité de la voie prophétique qui rassemble. Et moi, je pense que le Saint-Père à cette vocation, cette charge dans la Terre Sainte, de pouvoir apporter cette charge prophétique.
صليب